Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. C'est là que nous sommes nés. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous avons connu l'origine de la vie, puis nous sommes venus au monde, et nous avons enfoui le souvenir de ces 9 mois passés, in utero. Je m'appelle Zoé Varier et je voudrais remonter le temps. Je me tiens face au mystère de l'origine de la vie et je vous invite à faire avec moi et les plus grands chercheurs scientifiques français un voyage sensoriel, saisissant et parfois troublant. Vous allez être éblouis par la puissance de la vie. Ce voyage commence par une image, l'image du visage d'un embryon de 7 semaines.
Cette image, ça je l'ai vue en préparant notre rencontre, ouais. Avec cette tête d'embryon un peu... Et là on voit les doigts palmés.
On voit qui commence à se former, oui. Oui. On voit les mains qui commencent à se former. Oui. Et là c'est tous les nerfs, justement tout ce qui va à partir de votre... moelle épinière, votre cerveau, vers l'extérieur du cerveau, en fait, pour connecter encore une fois à tous les muscles ou pour faire revenir des informations vers le cerveau.
Mais ça fait des images magnifiques. Hein. Et là, on peut s'arrêter. Ça, oui, il a 7 semaines, là, l'embryon.
Oui, c'est ça, à peu près. Voilà.
Et donc, il est tout plissé. Alors, il a un mufle.
Oui,
groin.
On commence par un peu ressembler à un cochon, effectivement, dans le développement. Ce que je dis, la face, le visage, va se remodeler très, très fortement dans le développement. Plus que ça, puisqu'au départ, on est même coupé en deux, en fait.
C'est-à-dire ?
Bah, vous avez une fusion qui se passe de deux moitiés de votre visage.
Ah oui.
Et au départ, vous avez vraiment une séparation. Donc en fait, la tête change de forme énormément. Le crâne, ça se remodèle dans les premières semaines de développement. Et c'est un processus qui est vraiment très compliqué, qui va organiser toutes les structures qui sont autour du crâne.
C'est Alain Chédotal qui parle. Alain Chédotal est neurobiologiste du développement, membre de l'Académie des sciences. Il travaille à l'Institut de la Vision à Paris. C'est Jean-Léon Maître qui m'a conseillé de le rencontrer. Avec Jean-Léon Maître, j'ai appris ce qui se passe les 7 premiers jours de la vie de l'embryon jusqu'à son implantation dans l'utérus de sa mère. J'ai compris que l'embryon ressemble d'abord à une grappe de raisin, puis à une framboise. J'ai compris que les cellules de l'embryon ont des petits muscles, qu'il y en avait des plus costauds que d'autres, et qu'en fonction de leur position, elles deviendront soit du placenta, soit le corps de l'embryon. Voilà où j'en étais de mes maigres connaissances sur l'embryon quand je suis allée rencontrer Alain Chédotal, avec une idée en tête. Comprendre ce qui se passe après les 7 premiers jours de la vie de l'embryon. Comprendre l'émigration des cellules. Comprendre la formation des organes. J'imaginais qu'Alain Chédotal me décrirait l'évolution de l'embryon chronologiquement dans le temps. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des... Ce que tu dis, Jean-Léon, c'est ça montre qu'il y a des processus de physique, de force qui sont impliqués. Dans son cas, lui, il y a des muscles, un squelette dans les cellules, des contractions qui se produisent, qui vont changer la forme et faire des déformations. Et ces forces qui vont se produire, le fait que les cellules soient accrochées entre elles, si vous tordez une cellule dans un coin, le fait qu'elle soit accrochée avec la suivante fait que l'autre va se tordre. Et vous allez faire comme ça, vous allez faire des gros changements qui sont encore une fois des... Il n'y a pas besoin de migration. Là, c'est vraiment des torsions, des forces qui font que ça va déformer votre tissu.
Mais ça, c'est au début.
Ça, c'est au début. Alors, ça se produit encore tardivement. Le cerveau va se plisser aussi dans le développement. Au début, c'est un tube. Et puis après, il y a des structures qui vont gonfler. Puis après, ça va être serré à certains endroits. Comme vous prenez un ballon, vous soufflez dedans, vous allez faire pareil. Vous pouvez faire un petit chien, là, magnifique, gonflé en tordant. Mmh. Un cerveau, ça se développe pareil. Vous avez d'abord un tube, vous allez souffler dedans. Ça s'appelle le tube neural. Et après, vous allez... l'avant du cerveau va gonfler plus, ça va donner le cortex cérébral, et puis la moelle épinière va moins gonfler, et puis vous allez avoir des endroits comme ça où il y a des constrictions qui se produisent, donc des forces qui font qu'il y a des endroits qui vont être plus gonflés que d'autres. Donc ces processus-là, ça continue, hein, dans plein d'organes, il y a des forces qui vont jouer un rôle dans le développement. Mais ça, ça suffit pas à expliquer ce qui se passe.
Alain Chédotal a d'abord travaillé sur les embryons des souris avant d'étudier l'embryon humain. Pour me faire comprendre comment se développe un embryon humain, Alain Chédotal a sorti d'une petite boîte blanche des modèles d'embryons imprimés en 3D, des premiers jours jusqu'à la 8e semaine.
Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, tant qu'à faire.
Ah bah oui.
Maintenant, on a des...
Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors là, ce qu'on fait en ce moment, on verra après, donc on génère, nous, avec notre projet, beaucoup de données tridimensionnelles. Donc maintenant, vous pouvez imprimer en 3D des échantillons. Et donc là, ce que vous voyez dans ce petit bloc de transparent, vous avez, à taille réelle, le développement embryonnaire pendant les 8 premières semaines. Donc 56, c'est 56 jours, le plus gros ici, vous en voyez quelques centimètres. Et puis là, on a 26 jours. Si on veut être précis, c'est 8 premières semaines. Donc là, on voit bien, vous partez de quelque chose qui ressemble à pas grand-chose, à un petit grain de riz. Et puis, vous allez avoir petit à petit les membres qui vont apparaître, les yeux qui vont apparaître. Et donc là, ça va prendre à 8 semaines, ça a la forme d'un embryon assez classique, avec sa grosse tête, et puis ses petites pattes, et puis ses petits bras. Et puis, on voit le cordon ombilical. Donc là, on voit que ça commence à ressembler vraiment à un embryon humain, tel qu'on le connaît, à 8 semaines, on reconnaît vraiment. Là, si maintenant je vous montrais un embryon d'autres espèces, vous voyez tout de suite qu'il est différent de l'embryon humain.
Et oui, alors qu'au début, ça ressemble, l'embryon humain ressemble au début aux embryons des autres espèces ?
Il y a plus de ressemblances, mais de fait, c'est pas quand même identique du tout, quoi. Mais on passe un peu par certaines phases de développement qui sont un peu équivalentes, mais il n'y a pas de branchie, par exemple, chez les embryons humains, alors qu'il y en a chez les poissons. Cette idée que on va refaire toute l'évolution des espèces.
Oui, c'est ça. C'est pas vrai.
Non, en fait,
l'embryon ne va pas traverser toutes les étapes de l'évolution des espèces.
Ce qui est connu, c'est qu'il y a des gènes qui contrôlent le développement d'un embryon de mouche, qui vont être aussi contrôlés le développement d'un embryon humain. Mais quand même, globalement, on va pas, comme ça, passer par tous les stades de l'évolution, depuis la mouche, par le poisson, etc., jusqu'à l'homme.
Parce que ça, c'est une idée qui persiste, hein.
Oui, c'est une idée qui persiste et qui est liée à ce monsieur Haeckel.
Qui est une fake news.
Qui était, globalement, une des premières, fake news ou fraude scientifique. Il a un petit peu arrangé la réalité. Et puis ça a beaucoup séduit les gens. Encore une fois, il y avait un intérêt pour l'embryon. Et puis, il y avait aussi les travaux de Darwin sur l'évolution. Donc, il y avait des choses autour qui étaient intéressantes. Et c'est un concept qui plaisait.
Et il a modifié les dessins, c'est ça ?
Il a un petit peu arrangé la réalité, on va dire. Voilà, et ça a été une des choses intéressantes.
Mais en même temps, on a une queue. Ça, c'est vrai ou pas ?
Oui, on a
parce
une queue.
Que Jean-Léon Maître, il m'a parlé d'une queue.
Non, on a une queue qui va effectivement
régresser. Elle est là, c'est le
régresser.
Petit truc qu'on voit là ?
Non, on la voit déjà plus à cet âge-là, elle est déjà partie. On la voit un peu au départ, vous la voyez un petit peu ici.
Ah c'est, oui,
ce
la
petit
petite
truc qui va rapidement régresser. Donc là, vous voyez, on la voit encore, on est à 37 jours de développement. Mais vous voyez ici, là aussi, ce qui est intéressant sur ces impressions 3D, pour ça qu'on les a fait, c'est que on voit bien la croissance de l'embryon en quelques jours. Vous avez entre chaque petite impression, chaque petite sculpture, là, vous avez à peu près entre 2 et 3 jours. Ah. Vous voyez à quelle vitesse ça va grossir et ça va changer.
On est toujours avec Alain Chédotal, neurobiologiste et spécialiste du développement du cerveau. Avec lui, j'ai vu et appris des choses extraordinaires. Par exemple, est-ce que vous saviez que l'embryon porte un petit sac ? Un petit sac suspendu à son ventre. On l'appelle le sac vitellin. Son rôle consiste à nourrir l'embryon en formation et à générer certains globules blancs jusqu'à ce que le placenta soit formé. Si Alain Chédotal me parle du sac vitellin, c'est pour me faire comprendre la migration de certaines cellules dans le corps de l'embryon.
Vous avez, par exemple, dans le cerveau, il y a très peu de cellules du système immunitaire dans le cerveau. Il y a ce qu'on appelle une barrière hématoencéphalique qui fait que, dans un cerveau normal, les cellules du système immunitaire ne vont pas rentrer. Et dans le cerveau, vous avez principalement un seul type de cellules immunitaires qu'on appelle les cellules microgliales. Alors, elles sont là si vous avez une lésion ou quelques infections dans le cerveau. Donc, elles sont les seules à être à l'intérieur de votre cerveau. Et ça, ces cellules-là, elles ont été produites dans le développement embryonnaire par une annexe de l'embryon. Alors, on n'a pas, il y a le placenta, mais il y a un autre petit truc qui est rattaché à l'embryon qu'on appelle le sac vitellin. Précocement, il y a une petite annexe de l'embryon, un petit sac.
Ouais.
Donc vous avez votre embryon, son cordon ombilical attaché au placenta, mais il a aussi un autre petit truc qui pendouille, qui est l'équivalent, si on veut, du jaune d'œuf dans un œuf.
Mais qui pendouille où ?
À l'intérieur de la myose, de la cavité amniotique.
D'accord. Mais qui est en suspension, qui est raccroché à son corps
C'est un sac, c'est vraiment en suspension. Ouais. Il est rattaché au corps par une espèce de cordon.
Ah oui.
Et en fait, ce sac, donc ça s'appelle vraiment le sac vitellin, ça sert à nourrir un peu l'embryon au départ. Ça, c'est une des fonctions. Mais surtout, on s'est rendu compte que c'était là qu'était produite initialement la plupart des cellules du système immunitaire. Et donc, ces cellules, elles sont dans cette petite annexe là, qui pendouille. Et puis, elles vont se mettre à quitter le sac vitellin pour migrer, envahir tout l'embryon. Elles vont aller vers votre foie, elles vont aller dans différents organes, et puis notamment, elles vont aller envahir le cerveau très précocement, avant que la barrière se ferme, et elles vont s'installer là, dans le cerveau, pour former cette microglie. Et donc ça, c'est quelque chose qui se produit très précocement. Vers la dixième semaine, elles ont vraiment commencé à rentrer dans le cerveau, et après, c'est fini. Et donc, vous avez dans toutes ces cellules vont migrer dans l'ensemble du corps de l'embryon, envoyer à votre cerveau, et donc ces cellules qui sont dans votre cerveau ne sont pas nées là.
Depuis que je rencontre des chercheurs qui observent le développement des embryons, je suis fascinée par la migration des cellules, et je m'interroge. Comment ces mouvements de cellules sont-ils organisés ? Est-ce que les chemins qu'empruntent les cellules pour se déplacer sont prédéterminés ? Pour répondre à mes questions, Alain Chédotal prend l'exemple de la formation de la rétine chez l'embryon humain. Écoutez bien.
On sait maintenant que les prolongements des neurones, ce qu'on appelle les axones, sont guidés dans le développement embryonnaire. Votre œil droit et votre œil gauche envoient les axones dans le nerf optique et vos deux nerfs optiques se croisent. Et là, chez l'homme, la moitié de vos neurones de chaque rétine va décider soit de rester du même côté, soit d'aller de l'autre côté.
À droite ou à gauche ?
À droite ou à gauche. Et ça, ce choix, ça se fait chez l'homme autour, entre, on va dire, la 7e à la 14e semaine de développement. Vos neurones de la rétine qui forment le nerf optique sont produits à ce moment-là. Et chacun d'entre eux doit décider, je vais d'un côté ou je vais de l'autre.
Décider. C'est un choix, gauche ou droite ?
Ils ont à leur extrémité ce qu'on appelle un cône de croissance. Alors, des gens font une homologie et disent c'est un peu une tête chercheuse.
Ouais.
Ils ont effectivement, cette structure est très dynamique. Il faut imaginer ça comme c'est un peu plate, avec plein de petits prolongements, de petits bras qui vont dans tous les sens, qui vont échantillonner, qui vont tâter, goûter un petit peu à droite, à gauche ce qu'il y a dans le tissu. Et ces prolongements-là vont reconnaître des indices qui sont localisés sur leur trajet. Comme des bornes kilométriques ou des panneaux indicateurs. Vous avez, comme ça, dans l'embryon, vous avez des structures qui vont porter à leur surface des indices. C'est le petit pousset, hein, c'est exactement pareil. Vous allez avoir ces indices qui sont portés par certaines cellules à certains endroits importants. Il faut choisir. Voilà, l'endroit où vos deux nerfs optiques se croisent, c'est très important. Si vous n'avez pas la bonne proportion qui va à droite à gauche, vous n'allez pas voir correctement.
Et c'est où les autres endroits où il faut choisir ? Partout.
Partout.
Mais quand vous dites le petit pousset, ça veut dire qu'il y a plein d'endroits où les cellules, elles ont des marqueurs,
oui.
Où elles doivent aller,
voilà.
Je schématise, elles doivent aller jusqu'à ce point-là,
oui.
Qui est un point de jonction ou d'intersection,
voilà.
Et là, il faudra qu'elles fassent un choix.
Et qu'elles fassent le bon choix. Autrement, ça va avoir des conséquences, éventuellement, à long terme.
Ah, elle doit faire le bon choix pour pas qu'il y ait de pathologie.
Voilà.
Mais elle est comme guidée par des bornes.
Elle est comme guidée comme ça par des bornes. Alors, soit c'est vraiment des cellules qui sont à un endroit, il faut qu'on touche cette cellule-là pour reconnaître un indice. Soit il y a aussi des cellules qui sécrètent, comme ça, des molécules qui vont diffuser et former un peu un gradient. Les cellules vont essayer de suivre ces gradients. Soit elles vont remonter vers la source du gradient, soit elles vont s'en éloigner. Il y a des molécules qui vont faciliter la migration, qui vont attirer les cellules, et il y a des molécules qui vont au contraire les repousser, les éloigner. Et il y a des cellules qui vont, pour la même molécule, il y a des cellules qui vont être attirées par des cellules et d'autres qui vont être repoussées par ces molécules-là. Donc la même molécule, en fonction des cellules, peut avoir un effet positif ou négatif.
Et on sait pourquoi ? Certaines repoussent et certaines sont repoussées ou certaines...
Donc c'est
trop compliqué ?
Non, c'est pas trop compliqué. Parfois, c'est qu'elles expriment à leur surface ce qu'on appelle des récepteurs, des protéines particulières, qui sont différents. Et la même molécule va se plisser sur deux récepteurs différents et la conséquence sera pas la même pour la cellule. Mais ça peut être aussi que la cellule n'est pas dans le même état. Il y a un moment, elle va répondre d'une façon, mais un peu plus tard, il y a des modifications qui sont faites que maintenant, du coup, elle répond pas de la même façon à la molécule. Soit elle y répond plus du tout, soit au contraire, elle va répondre d'une façon complètement opposée. Donc il y a des changements qui se produisent dans la cellule au cours du développement qui font que la réponse va changer à ces différentes molécules.
Pour digérer toutes ces nouvelles informations sur l'embryon et la migration des cellules, Alain Chédetal me propose de faire une pause. Une pause réalité virtuelle. Ça se passe dans la pièce d'à côté. Casque sur la tête, un joystick dans la main droite et un autre dans la main gauche. J'observe un embryon en réalité virtuelle.
Je suis en train de rentrer dedans.
Voilà, c'est ça.
Tous ces vaisseaux sanguins ont été colorés en rouge. J'entre à l'intérieur.
Oh, et je suis dedans.
Je me sens comme dans une cathédrale. Je lève la tête, je vois une sorte de nuage ou d'éponge.
Ça, c'est le cœur.
C'est le cœur de l'embryon.
Impressionnant. Comment je fais pour moi pour sortir? C'est fou.
L'idée, c'est qu'on pourra... pour l'article qu'on est en train de faire, on va mettre aussi sur un site des données comme ça de réalité virtuelle pour que les gens qui ont des casques... Maintenant, c'est fréquent, il y a plein de gens qui ont des casques. Puissent se connecter, puissent se balader dans certains échantillons qu'on aura mis pour qu'ils aient une idée de ce à quoi ça ressemble.
Non, mais vraiment, on rentre dans le corps.
Oui, non, on peut se balader. De voir vraiment en réalité virtuelle, ça change complètement pour moi la façon dont on peut analyser nos images. Ça reste un peu plus compliqué au départ
à
manipuler, mais c'est un coup à prendre et ça va se développer dans le futur. Et ça va être intéressant, même en médecine, ils l'utilisent maintenant pour apprendre à faire des chirurgies. Et l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est que vous voyez bien la profondeur, vous arrivez vraiment bien à vous repérer. Sur un écran, on a des fois du mal à voir ce qui est devant, derrière. Mais là, le fait d'être en trois dimensions fait que vous pouvez vraiment vous balader à l'intérieur et comprendre vraiment l'organisation des structures. Et donc ça, à la fin, c'est que si vous voulez apprendre l'embryologie, on va pouvoir avoir un muscle qu'on a colorisé en rose à différents âges, un muscle qui par exemple fait bouger l'œil, on va pouvoir le voir à différentes étapes, voir comment il a changé de place, comment il s'est organisé, et on va pouvoir le reconnaître comme ça à différents âges. Et donc ça, vous allez le faire sur les centaines de muscles de l'embryon, mais vous allez pouvoir comme ça reconstruire la structure de tous les muscles, du squelette, de tous les différents organes, à une précision qui est quand même de l'ordre de la cellule.
Surtout, n'hésitez pas à aller regarder les images d'embryons sur la page d'Inutero sur franceinter.fr. Avec Alain Chédetal, nous avons donc parlé de la migration de certaines cellules de l'embryon. Et dans l'épisode suivant, il sera question d'une technologie révolutionnaire qui permet de rendre les embryons transparents et d'observer le trajet des cellules et la formation de ces organes. Inutero est un podcast original de France Inter.